Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Quand je me promenais dans ce parc avec lui, j'avais l'impression que tout était plus beau. Il y avait comme une sorte de communion avec la nature.
Nouveau Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique.
Changement de registre. Ne pensez pas que j'ai perdu mon sens de l'humour, tout va bien, ça va, hein, pas perdu mes boulons, ça va. Mais c'est, je ne devrais pas chanter ça, bien sûr, mais c'est une très 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 belle chanson. Donc une belle chanson se doit être chantée, elle s'appelle « Déshabillez-moi ».
On peut séduire par le corps, en suivant une recette infaillible dont Juliette Gréco nous livre le secret. On peut séduire par le cœur, en comptant fleurettes aux âmes qui ne demandent qu'à être comprises. Et on peut séduire par l'esprit, enfin, en sachant s'introduire au plus profond de la pensée de l'être tant désiré.
Me désirer, me captiver.
Mais dans tous les cas, la séduction est-elle jamais autre chose qu'une manipulation? Nous laisse-t-elle d'autre choix que d'être victime ou bourreau? De ce rapport de force, on peut se délecter, l'associer à la volupté suprême de ne pas savoir si l'on se joue de nous ou même de se jouer de l'autre quand il croit nous dominer. Il est des séductions plus douces que d'autres, mais ce sont les tourments de la séduction que nous allons explorer cette semaine en compagnie de Baudrillard, Flaubert et des liaisons dangereuses.
Ouvrez-moi les yeux, mais j'avais retenu, faut que je m'habitue.
Alors pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Delecroix, directeur d'études à l'école pratique des hautes études où il enseigne la philosophie de la religion. Vincent Delecroix qui vient vous livrer les secrets du journal d'un séducteur de Søren Kierkegaard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Il s'agissait d'un journal, ni plus ni moins, et tenu avec beaucoup de soin. Et bien que, d'après ce que je savais de lui auparavant, un commentaire de sa vie ne paraisse pas tout à fait indiqué, je ne peux pas nier qu'après un premier coup d'œil dans ce journal, le titre « Commentarius Perpetuus » n'ait été choisi avec beaucoup de goût et de compréhension, témoignant sur lui-même et sur la situation d'une véritable supériorité esthétique et objective. Ce titre est en parfaite harmonie avec tout le contenu. Sa vie a été un essai pour réaliser la tâche de vivre poétiquement. Doué d'une capacité extrêmement développée pour découvrir ce qui est intéressant dans la vie, il a su le trouver. Et l'ayant trouvé, il a toujours su reproduire ce qu'il avait vécu avec une veine mi-poétique. Son journal, par conséquent, n'est pas historiquement juste, ni un simple récit. Il n'est pas rédigé au mode indicatif, mais au mode subjonctif. Bien que les détails, naturellement, aient été notés après avoir été vécus, parfois même peut-être assez longtemps après, le récit donne souvent l'impression que tout se passe à l'instant même. La vie dramatique est tellement intense que parfois on croirait que tout se passe devant vos yeux. Il est extrêmement invraisemblable qu'il ait écrit ce journal dans un but particulier. Il saute aux yeux qu'au sens le plus strict, il n'avait pour lui qu'une importance personnelle. Et l'ensemble, aussi bien que les détails, interdisent de penser que nous avons devant nous une œuvre littéraire, destinée peut-être même à être imprimée.
Vincent Delecroix, a-t-on raison de lire le journal d'un séducteur comme un manuel de séduction ?
Non, pas du tout. Enfin, si on le lit comme ça, on risque d'être un peu déçu, je pense. Enfin, peut-être qu'il y a des trucs qui marchent. Chacun essaiera. Il en donne hein, quelques recettes. En général, elles sont plutôt négatives. C'est-à-dire, voilà ce que fait l'amant grossier. L'amant, oui, mal dégrossi, un peu vulgaire, etc. En général, ils font comme ça. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que, comme vous le disiez à l'instant, il faut séduire par l'esprit et pas tellement par le corps, encore moins par l'argent. Des choses comme ça.
Ah oui, j'ai pas pensé à l'argent, c'est vrai.
Il le dit à un moment donné. Hein. Il y en a qui préfèrent effectivement acheter. Non, c'est pas un manuel de séduction. En revanche, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre cet ouvrage sans le replacer dans son contexte, à la fois dans l'œuvre dans laquelle il figure, puisque c'est en réalité une partie d'une œuvre. Une partie de ou bien, de l'alternative. Qui fait partie de la première partie en général qu'on considère comme consacrée au stade esthétique. Bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus.
Bien sûr.
Mais c'est en soi d'ailleurs un peu discutable. Et puis il faut le replacer dans le contexte à la fois général de l'œuvre de Kierkegaard, parce que ça a été l'objet de beaucoup de malentendus, mais c'est une œuvre extrêmement pensée, extrêmement concertée, et qui, je m'en rends compte en l'ayant relu là, à l'occasion de cette émission, qui... En réalité, c'est ça qui est troublant, on ne peut pas être comprise complètement, en tout cas dans ces mystères, si on n'a pas l'horizon de la totalité de l'œuvre. En fait. Chez Kierkegaard, c'est très difficile à chaque fois de comprendre les rapports entre la partie et le tout. Mais là, en particulier, il faut comprendre ce texte comme à la fois autonome et en réalité entretenant des quantités de résonances, d'échos, d'affinités électives avec ce qui va se développer par la suite, parce que ça rentre dans une stratégie éditoriale de Kierkegaard parfaitement concertée, parfaitement réfléchie. Et donc il faut être très conscient de ça. Et puis il faut une troisième fois le réintégrer dans un contexte qui est purement philosophique cette fois-ci, et qui consiste à dire, à commencer par la question de savoir pourquoi on s'intéresse à la séduction, pourquoi Kierkegaard s'intéresse et même commence sa carrière d'écrivain et de philosophe par un texte comme celui-là. Et à dire vrai, j'ai déjà fait une erreur, parce que c'est pas la séduction qui l'intéresse, c'est pour ça que c'est pas un manuel du séducteur. C'est le séducteur lui-même qui l'intéresse, et c'est la personnalité qu'est le séducteur et ce que ça signifie philosophiquement.
Et une quatrième façon de le lire aussi, c'est de le comparer à la vie personnelle de Kierkegaard, puisqu'il est difficile de ne pas penser à la propre expérience de Kierkegaard.
Alors, bien évidemment,
qui rompt ses fiançailles.
Bien sûr, on sait à quel point, ou on peut savoir à quel point tout ce qu'il écrit est en liaison intime, mais toujours indirect, extrêmement compliqué avec sa propre vie. Mais là, évidemment, il y a des choses qui paraissent tellement transparentes, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui, à la fois, on y reviendra, parce que c'est ça aussi qui est un peu original, qui est à la fois séducteur et séduit. Il ne s'en cache pas, il est amoureux.
C'est
un séducteur amoureux et qui est ravi de se sentir amoureux. Donc, c'est très lié à l'expérience même de Kierkegaard et son amour profond pour Régine Olsen, avec laquelle il a fini par rompre. Et donc, il y a l'épisode de la rupture des fiançailles qui a fait parler tout Copenhague. Bon, c'est un roman à clé aussi de ce point de vue-là. Mais je pense que bien sûr, il faut le ramener à la biographie de Kierkegaard, et c'est vital de le faire, mais il ne faut pas se tromper en le faisant.
Pour mieux s'en éloigner, hein,
bien
juste
sûr.
Pour, voilà.
Non, mais il ne faut pas se tromper dans le rapport qu'entretient ce texte avec la vie de Kierkegaard. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est particulièrement intéressant, la réflexion sur la forme même du journal. C'est une forme qui a été pratiquée beaucoup par Kierkegaard, à la fois, j'allais dire, par son propre journal intime, puisque il y a un journal intime de Kierkegaard qui considérable, hein, qui double l'œuvre publiée, qui fait 23 volumes dans l'édition danoise. C'est énorme. Donc il a la pratique même du journal. Et puis la forme diariste, qui est très à la mode à cette époque-là, qui est vraiment une forme très romantique, hein, il l'utilise à de nombreuses reprises, y compris le mélange journal-lettre qu'on a dans le journal du c'est-à-dire la forme diariste et la forme épistolaire, qui est très importante. Et c'est très important d'un point de vue philosophique et existentiel, puisque il s'agit de montrer l'intérieur d'une âme, hein. Il s'agit de montrer l'intérieur d'une âme, c'est-à-dire quelque chose comme une horrible autopsie in vivo. Je me regarde, c'est bien ça le malheur du séducteur d'une certaine manière, je me regarde aimer, je me regarde séduire, je me regarde me développer et se développer l'être aimé. Et donc il y a à la fois une espèce de proximité avec le sujet qui vit l'expérience et une espèce de distance réflexive qui permet la philosophie, et pas simplement la réflexion psychologique, une distance réflexive à l'égard de ce qu'on vit soi-même. Et ça, c'est le journal, pour ça, c'est une, finalement, et on s'en aperçoit au fur et à mesure, c'est une forme philosophique fondamentale. Pour une fois, on saisit ce que va vouloir faire Kierkegaard régulièrement, pour une fois, on saisit le sujet existant, à la fois dans son existence, j'allais dire presque immédiate, et tout le temps réfléchi. Et tout le temps, et c'est pour ça que l'introducteur à ce journal dit, eh ben voilà, on ne sait pas à la fois si peut-être que ces événements sont rapportés à des semaines, à des jours de distance ou dans l'immédiateté, mais ils sont à la fois vécus et revécus. Et ça, c'est un thème très très important chez Kierkegaard, évidemment.
La répétition. Ouais. Alors, vous avez dit que le narrateur du journal Johannes était emblématique de ce que Kierkegaard appelle le stade ou la sphère esthétique. Écoutons un extrait un peu plus loin dans le journal du séducteur où il définit ce qu'est ce rapport esthétique comme étant, disons, une manière de jouir, mais de jouir tout en se limitant. Écoutez.
Une condition capitale pour toute jouissance, c'est de se limiter. Il ne semble pas que j'aurai de sitôt des renseignements sur la jeune fille qui emplit tellement mon âme et toutes les pensées que nourrissent mes regrets. Mais je vais me tenir tranquille, car il y a de la douceur aussi dans cet état d'émotion sombre et mystérieuse, et pourtant forte. J'ai toujours aimé, par une nuit de clair de lune, à aller en bateau sur l'un ou l'autre de nos lacs délicieux. Je rentre alors les voiles et les rames, je démonte le gouvernail, je m'étends de tout mon long et je regarde la voûte céleste. Lorsque les vagues bercent le bateau sur leur sein, lorsque les nuages vont au gré des vents et cachent un instant la lune pour la faire apparaître à nouveau, je trouve le repos, malgré tout ce mouvement. C'est de cette façon que je m'étends maintenant aussi. Je rentre les voiles, je démonte le gouvernail. Le désir et une espérance impatiente me bercent dans leurs bras. Désir et espérance s'apaisent de plus en plus et me transportent de plus en plus de joie. Ils me soignent comme un enfant. Au-dessus de moi, le ciel de l'espérance s'élève en voûte. L'image de la jeune fille plane rapidement devant mes yeux comme la lune indécise et m'éblouissant de sa lumière tantôt et tantôt de son ombre. Que de jouissance à être ainsi secoué sur une eau agitée. Que de jouissance à être secoué en soi-même.
Vincent Delecroix, on a pu qualifier Johannes de pervers, manipulateur, narcissique, ce qu'il est sans doute par ailleurs, mais c'est aussi quelqu'un qui se délecte d'une forme de douceur. Le texte que l'on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, rappelle en un sens, c'est comme la cinquième rêverie de Rousseau revisitée. Il est sur sa barque, il est au gré des flots et des vagues, il se laisse porter. Il y a même une petite référence à Kant aussi, il regarde la voûte du ciel qui semble lui révéler une vérité. Il décrit son rapport à la jouissance et surtout, ce qui est magnifique, c'est que le texte finit avec ces mots-là, hein, et de jouissance à être secoué en soi-même. Si bien que la véritable jouissance n'est jamais celle d'autrui, mais celle que l'on sent en soi.
Bien sûr, c'est l'un des secrets du séducteur et c'est l'un des secrets de l'intérêt de Kierkegaard pour cette figure. Il faut, je disais tout à l'heure qu'il faut la replacer dans son contexte. Si on la replace plus précisément, le texte est merveilleux, hein, il est lu, il a été lu
magnifiquement,
remarquablement,
par Vincent
Schmitt, je trouve d'accord. Que c'est très 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 beau, hein, ce qu'on a entendu. Et mais en le replaçant dans la première partie de l'alternative, donc qui porte sur le stade esthétique, vous avez deux figures du stade esthétique, et de la jouissance, justement, il y a celle qui commence, c'est Don Giovanni, c'est le Don Giovanni de Mozart, et celle qui termine, à l'autre extrême du spectre, dans la pure réflexivité de la jouissance, c'est Johannes le séducteur. Bon. Autrement dit, le stade esthétique parcourt tout un arc très très important entre la jouissance immédiate et la jouissance différée, d'une certaine manière. Entre deux modes on peut dire de séduction, mais la séduction du Don Giovanni de Mozart, comme vous le savez, elle est d'une rare brutalité, et elle est dans la consommation, et elle est extérieure. Ce qui est fondamental, et c'est pour ça que ça a intéressé Kierkegaard de commencer son livre par là, ce qui est fondamental dans Don Giovanni de Mozart, c'est que elle est toute portée vers le monde extérieur. C'est un désir qui dévore l'extériorité. Chez Johannes le séducteur, ce sera un désir qui se dévorera lui-même et qui dévore l'intérieur et qui se passe à l'intérieur. Et tout le stade esthétique, c'est une intériorisation réflexive, progressive de ce désir, sans que ce désir s'évapore pour autant. Mais l'individu se referme sur lui-même et jouit de lui-même en réalité. Et la véritable séduction se trouve là, peut-être. Et ça se voit aussi au fait que le Don Juan de Mozart consomme toutes les femmes, il en veut toujours plus, c'est-à-dire tous les objets extérieurs, encore, encore, encore. Et cette quête est évidemment inépuisable et infinie, illimitée, justement. Tandis que Johannes le séducteur, il ne séduit qu'une seule femme. Ou en tout cas, ici, on en a l'exemple que d'une seule. C'est-à-dire il concentre toute la force de ce désir sur une seule femme, non pas toutes les femmes, mais une seule, un individu.
Qu'il choisit avec soin.
Qu'il choisit avec soin,
n'importe quelle femme.
Dont il est amoureux, ce qui est rarement le cas de Don Juan, avec lequel il choisit très prudemment les expédients pour arriver à ses fins, ce qui n'est pas le cas du Don Juan de Mozart, pour qui tous les expédients sont bons, et qui, comme vous venez de le dire, se surtout jouit de lui-même et jouit de son propre désir. Donc on est d'une certaine manière toujours dans le stade esthétique, mais exactement à l'autre extrême de la figure de Don Juan. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre cette figure si intéressante qu'est celle du séducteur.
Vous prononcez le terme, hein, d'ailleurs il le dit, hein, comme c'est beau d'être amoureux, comme il est intéressant de savoir qu'on l'est. La catégorie de connaissance, en fait, Kierkegaard fait de ce qu'on appelle l'intérêt, hein, ou être intéressant, une catégorie de connaissance, et c'est ce qui définit le rapport au monde dans le stade esthétique.
Absolument.
Et une fois qu'on lit ça, c'est assez troublant parce qu'on se rend compte que, eh bien, plusieurs fois par jour, on dit, ah, c'est intéressant de voir que, ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on signifie par là?
Bah, bien sûr, ce qui est très intéressant.
Comble un ennui profond.
Vous venez de le dire, c'est effectivement une catégorie de la connaissance, une catégorie de la connaissance, vraiment au sens philosophique, hein, et c'est-à-dire ce qui nous lie au réel. Hein, et quelle est la manière dont nous abordons et connaissons le réel? Dans le stade esthétique, nous l'abordons, par exemple, et en particulier sous la catégorie de l'intéressant, qui répond, alors bon, ça demanderait des développements qu'on n'a pas le temps de faire ici, mais qui répond par exemple à la dévaluation de la curiosité chez Saint-Augustin. Hein, il faut avoir en horizon, si vous voulez, toute la réflexion religieuse, la formation religieuse de Kierkegaard, hein, qui est omniprésente en réalité dans ce texte. Donc, il y a ça, cette condamnation de la curiosité, c'est-à-dire de la curiosité pour le monde, contrairement à l'intérêt qu'on devrait porter à soi, hein, qui est vraiment caractéristique d'un certain christianisme augustinien. L'intéressant, c'est effectivement quelque chose qui, d'une certaine manière, reprend l'intérêt pour le monde extérieur, mais qui en même temps ne divertit pas le sujet de lui-même. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que c'est à la fois une saisie du réel qui est à la fois superficielle et profonde, car on fragmente le réel. On n'est pas dans l'ordre du théorique, on est dans l'ordre, effectivement, du lien érotique au sens philosophique du terme, du désir, hein, du lien érotique au réel, et en même temps dans une espèce de renfermement sur soi. Tout est intéressant, tout peut devenir intéressant. Donc rien ne l'est. Comme disait Flaubert, il suffit de s'intéresser, enfin il suffit de porter son attention pendant un quart d'heure sur une chose, elle devient intéressante. Et c'est ça aussi. Alors à la fois, ça témoigne d'une acuité de l'esprit et en même temps d'un épuisement potentiel de l'esprit, parce que tout est finalement intéressant, donc rien ne l'est. Et là, on aboutit effectivement à la figure que veut tracer Kierkegaard à la fin de cette première partie du stade esthétique, c'est-à-dire la figure romantique par excellence, qui est celle du séducteur Johannes, de quelqu'un qui jouit en esprit et qui finalement se décolle de la réalité, et quelqu'un qui a un problème avec la réalité, ou plus précisément, qui a un rapport purement esthétique à la réalité.
Alors, t'as lu le journal du séducteur?
Oui.
Ça t'a plu?
Oui, enfin, je trouve ça un peu bizarre, ce type qui fait tout ce manège pour posséder une fille sans défense. C'est vrai, cette Cordelia, c'est une proie tellement facile.
Non, mais pour Kierkegaard, elle représente l'essence de la jeune fille pure. Un être qui possède une sorte de puissance magique innée. Et la tactique de Johannes, c'est de l'amener par des ruses savantes à se livrer. Car là, elle perdra son pouvoir.
Oui, mais ça veut dire que tout son charme réside dans sa virginité. Et alors, une fois qu'elle l'aura perdu, elle n'aura plus aucun intérêt pour lui. Mais non, mais c'est du donjuanisme.
C'est quoi pour toi le donjuanisme, Mathieu?
Donjuan, c'est un type qui cherche qu'à exercer sa libido, mais qui veut posséder toutes les femmes l'une après l'autre.
Tu vois, Johannes, c'est pareil. Une fois qu'il a eu Cordélia, il la jette.
Non, Johannes, c'est un séducteur. Pour lui, tout est dans le temps des préliminaires. C'est ce temps-là qui l'intéresse, c'est pas le passage à l'acte.
Ça veut dire que Johannes est incapable d'aimer.
Madame Ina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio. Un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna. Son già 1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h22 minutes et c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée aux tourments de la séduction, avec aujourd'hui le journal du séducteur de Søren Kierkegaard en compagnie de Vincent Delecroix.
Dans ma pratique s'ajoute le fait que je ne désire rien qui, au sens le plus strict, ne soit pas librement donné. Que les piètres séducteurs se servent de tels moyens, par surcroît, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Celui qui ne sait pas circonvenir une jeune fille jusqu'à ce qu'elle perde tout de vue, celui qui ne sait pas, au fur et à mesure de sa volonté, faire croire à une jeune fille que c'est elle qui prend toutes les initiatives, il est et il restera un maladroit. Je ne lui envierai pas sa jouissance. Un tel homme est et restera un maladroit, un séducteur, terme qu'on ne peut pas du tout m'appliquer. Je suis un esthéticien, un érotique, qui a saisi la nature de l'amour, son essence, qui croit à l'amour et le connaît à fond, et qui me réserve seulement l'opinion personnelle qu'une aventure galante ne dure que 6 mois au plus, et que tout est fini lorsqu'on a joui des dernières faveurs. Je sais tout cela, mais je sais en outre que la suprême jouissance imaginable est d'être aimé au-dessus de tout. S'introduire comme un rêve dans l'esprit d'une jeune fille est un art, en sortir est un chef-d'œuvre, mais ceci dépend essentiellement de cela.
Difficile de ne pas sourire en écoutant ce texte, Vincent Delecroix. Alors, quelle conception Johannes se fait-il de la séduction pour qu'il se défende d'être un séducteur?
Bien sûr, d'une conception grossière de la séduction. À dire vrai, probablement celle de Don Juan lui-même, qu'on vient d'entendre
avec Don Giovanni de
Mozart. L'air du catalogue. Bien sûr, cette modalité de la séduction n'est pas la sienne, et comme il l'indique lui-même, il en fait quelque chose comme un art, et peut-être qu'on va y revenir, parce que le terme d'art ici est très très
Allez-y,
important,
oui,
et le terme de chef-d'œuvre.
C'est cette phrase, hein, s'introduire comme un rêve dans l'esprit d'une jeune fille est un art, en sortir est un chef-d'œuvre.
Bien sûr, c'est très très important pour de multiples raisons, et d'abord pour la raison, je pense, pour deux raisons excessivement importante. La première, c'est que cet art a quelque chose à voir avec l'essence de l'amour. Et ça, il faut retenir ça pour la suite de la discussion. Il faut retenir que l'importance de la séduction de Johannes a quelque chose à voir avec le but que se fixe Kierkegaard dans toute sa philosophie, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que l'amour. C'est une philosophie de l'amour, essentiellement une philosophie de l'amour. Bon. Et la deuxième chose qui est corrélative, c'est que si on parle d'art ici, c'est qu'on fait probablement allusion à un autre art de la séduction, très lié au désir lui-même, ou faudrait-il dire à l'éros, et qui est l'art maïotique de Socrate. La figure qui est essentielle, qui double en réalité essentiellement le séducteur, c'est un autre séducteur très célèbre, c'est Socrate lui-même.
Sur lequel Kierkegaard a travaillé, sur l'ironie socratique. Hein,
sur lequel il a travaillé et qui est un modèle de sa philosophie jusqu'à la fin, pendant 20 ans. C'est lui-même à la fin se déclare Socrate chrétien, maïoticien de toute manière. Et l'art dont parle Johannes est d'une certaine manière le mime esthétique de cet art de la tromperie que pratique Socrate par l'ironie. L'ironie est constante hein, dans le journal du séducteur, et plus précisément le fait que l'ironie est un ingrédient nécessaire de cet art. Donc l'art du séducteur est sans arrêt calqué en réalité, ou alors il faut le lire en tout cas, comme étant une figure calquée sur l'art maïotique et ironique de Socrate, c'est-à-dire la séduction qui procède de l'éros, du désir, qui procède de susciter le désir en l'autre pour l'amener à quoi ? À accoucher de lui-même. Or, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre, en réalité, auquel aboutit, d'une certaine manière, la séduction ? C'est pas tellement d'abandonner une pauvre jeune fille qu'on a séduite. D'une certaine manière, c'est...
Et c'est même pas qu'il l'abandonne, c'est qu'il fait tout pour que ce soit elle qui parte,
sûr,
comble de la perversion.
Mais c'est exactement ce que fait Socrate. C'est exactement ce que fait Socrate.
C'est-à-dire ?
C'est exactement ce que décrit Kierkegaard, dans les miettes philosophiques, par exemple, en disant « Mais Socrate fait tout pour qu'on s'éloigne de lui, finalement. » Et il pousse, il est purement négatif, dit Kierkegaard. Il est purement négatif, c'est-à-dire il pousse l'autre. « Je n'ai rien à t'apprendre. Tout ce que j'ai à t'apporter, c'est toi-même qui le porte. Tu accouches de toi-même. » Qu'est-ce que c'est que la séduction dans le stade esthétique ? Qu'est-ce qui guide, en réalité, les réflexions d'Johannes, le séducteur, dans ce journal ? Sinon de regarder, il le dit dès le début, sinon de regarder comment la jeune fille se développe elle-même, grâce à lui. Il a un côté, évidemment, Pygmalion, démiurge, je m'introduis dans l'esprit, et qu'est-ce que je fais, en réalité ? Je la pousse à s'épanouir elle-même et à s'ouvrir elle-même à l'amour. Une femme ne naît qu'une fois, dit-il, mais elle naît tout le temps. Et, enfin, une deuxième fois, elle naît dans le mariage, et là, c'est visiblement pas ce qui l'intéresse le plus, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, en réalité, son art est un art de la maïotique. C'est une technique. Et c'est ça qu'il veut dire, notamment en se...
Pour accoucher de lui-même,
mais
vous dites.
Donc
la fille ne serait qu'un moyen, qu'un objet.
Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit dans la répétition.
Tout aussi important.
Et c'est la figure du jeune homme, qui est une figure symétrique. Peut-être qu'on en reparlera.
Ouais.
Qui est une figure symétrique Mais là, il se voit lui-même comme une espèce de Socrate. Mais Socrate esthéticien. Socrate éroticien, le terme est vraiment très très précis, c'est-à-dire je pratique l'éros qui est, comme vous le savez, l'aiguillon de la philosophie elle-même. C'est pas un hasard. Kierkegaard écrit ce livre dans une œuvre philosophique. C'est un livre étonnamment littéraire, comme on l'a vu, d'une très grande beauté par moment, mais c'est une pièce dans l'œuvre philosophique. Et donc l'idée, c'est que ce qui intéresse Kierkegaard ici, c'est la manière dont on amène... C'est une partie du roman d'éducation, c'est-à-dire la manière dont on amène ou dont on rate l'existence de quelqu'un, dont on amène quelqu'un à exister. Et dans la séduction, c'est bien pour ça qu'il fait la différence avec le séducteur brutal, maladroit, qui ne pense qu'à sa propre jouissance, ce qui n'est pas du tout le cas du séducteur Johannes.
Mm-hmm.
Johannes, il pense certes à sa jouissance, mais cette jouissance est purement intellectuelle. Et de quoi est faite cette jouissance intellectuelle ? Certes, de se rendre intéressant à lui-même et de s'observer lui-même, mais de surtout observer les progrès que fait son objet, c'est-à-dire l'objet aimé, et qui est, encore une fois, saisi sans arrêt dans une espèce d'ambivalence entre l'amour immédiat et la réflexion sur cet amour.
Mais pensez-vous qu'on puisse vraiment parler d'amour dans ce cas ?
Ah, il l'est. Il l'est, effectivement. Mais comme vous le savez, il est désigné dès le début comme, c'est la figure romantique par excellence, comme atteint d'une certaine... malédiction, qui est celle de Kierkegaard lui-même, comme on peut le savoir, une certaine malédiction de la réflexion. C'est-à-dire, je suis amoureux et en même temps, je ne peux pas ne pas savoir que je suis amoureux. Et
c'est ça, il se regarde, c'est un peu Roméo, hein, il se regarde être amoureux, il jouit de se voir lui-même amoureux. L'autre n'est qu'un prétexte, il aime une image
plus
qu'une femme.
C'est pas tout à fait un prétexte, justement.
Mais c'est là, ça, justement, ouais, moi j'ai du mal à comprendre que...
C'est ça qui est important, parce que on aurait tort d'en faire simplement une espèce de cynique, même dans son raffinement, même quand il s'agit de dire que effectivement c'est pas la prise qui l'intéresse, mais c'est la chasse, que la possession, il le dit lui-même, hein, que la possession ne l'intéresse pas une minute, mais c'est tous les progrès de la réflexion, de l'esprit, les progrès de l'esprit qui l'intéresse. Mais ça, c'est de l'ordre, j'allais dire, de la réflexion philosophique.
Oui, mais pas amoureuse.
Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a lu Platon et qui a lu les dialogues de Socrate. La philosophie est indissociable de l'amour, est indissociable de l'éros. Les tourments de la séduction, les tourments de l'éros, c'est les tourments de l'âme qui accouche d'elle-même. Et le principe de l'accouchement est fondamental ici. Il est fondamental parce que d'une certaine... Alors, on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est-à-dire ce qu'elle devient. Enfin, ou plus précisément, on le sait que... Elle verse aussi dans une forme de désespoir, puisqu'elle l'abandonne. Mais en même temps, elle peut être son chef-d'œuvre, d'une certaine manière, puisqu'il se retire, l'abandonne, la pousser à l'abandonner. Il se retire, et qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste son œuvre. Son œuvre, c'est cette femme. Alors certes, elle a fait l'épreuve des tourments de la séduction, elle a fait l'épreuve de l'amour, mais elle sait ce que c'est que l'amour.
Donc elle devrait le remercier.
Bah, je ne sais pas si c'est ce que Kierkegaard voulait dire à Régine au moment de rompre ses fiançailles en écrivant ce livre, mais c'est « J'ai fait de toi quand même quelqu'un qui a une connaissance supérieure et même divine selon Socrate, la connaissance de l'amour. »
Est-ce que j'aime Cordélia ? Oui. Sincèrement ? Oui. Fidèlement ? Oui. Au sens esthétique, et cela signifie bien aussi quelque chose. À quoi servirait à cette jeune fille d'être tombée entre les mains d'un maladroit de mari fidèle ? Qu'aurait-il fait d'elle ? Rien. On dit que pour réussir dans la vie, il faut un peu plus que de l'honnêteté. Je dirais qu'il faudrait un peu plus que de l'honnêteté pour aimer une telle fille. Et je possède ce plus. C'est la fausseté. Pourtant, je l'aime fidèlement. C'est avec fermeté et continence que je veille moi-même à tout ce qui est en elle, à toute sa riche nature divine, pour qu'elle puisse se déployer. Je suis un des rares qui puisse le faire. Elle est une des rares qui y conviennent. Ne sommes-nous donc pas faits l'un pour l'autre ?
Tu sais, je te sens en moi si profondément, si proche, que je n'arrive pas à croire que tu ne sens rien. Mais je ne te crois pas. Tu prétends que tu ne sens rien, mais ce n'est pas vrai. Tu mens. Tu joues la comédie.
Je veux bien parler avec toi, mais si tu dois continuer comme ça, je préfère m'en aller.
Non, ne pars pas. Je peux bien te dire que je veux vivre avec toi. J'ai envie de te voir t'endormir, te réveiller. Est-ce si désagréable à entendre ? Je veux vivre avec toi. J'aime ton cou. Tu as oublié ? J'aime ta peau. Dans les années que nous avons passées ensemble, j'avais progressivement oublié ton visage. L'impression que tu m'avais faite la première fois. Il a suffi que tu partes pour que je te retrouve en moi. Intact. Comme au premier jour.
Il fallait que je parte.
Tu ne finis jamais tes phrases. Il fallait que tu partes, mais pour qu'on se retrouve.
Allons prendre un café. Je voudrais manger quelque chose. J'ai encore 3 heures à faire.
Je n'ai pas l'argent.
Je t'invite.
Quand Kierkegaard, ou plutôt le narrateur Johannes du journal du séducteur, évoque le mélange d'honnêteté et de fausseté nécessaire à l'amour, difficile de pas penser à l'interprétation ici de Jean-Pierre Léaud dans La maman et la putain. Alors je parle pas simplement de son interprétation à lui en tant qu'acteur, je pense qu'effectivement on entend qu'il a pu sonner plus honnête, disons, mais aussi à la mise en scène de cette rencontre entre deux personnes qui ne cessent d'essayer de tester chez l'un et chez l'autre, eh bien le degré d'honnêteté ou de fausseté qui réside. Finalement, cette question-là, le fait que Johannes assume d'être du côté de la fausseté, c'est ce qui fait qu'il est tout à fait, disons, de l'autre côté du stade esthétique, de la dimension réflexive, qui arrive à se regarder lui-même et analyser ce qui est en train de se passer.
Bien sûr, et c'est ce qui fait, encore une fois, qu'il est un mime de la position socratique. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que Kierkegaard appelait la pieuse du prix, c'est-à-dire la tromperie en vue du vrai. C'est l'arme des plus cyniques. Hein. C'est pas vraiment une recette à appliquer en politique. Mais dans la politique de l'amour, si je puis dire, du stade esthétique, cette espèce d'ambivalence permanente entre sincérité et fausseté est extrêmement importante parce que elle s'applique d'abord au sujet lui-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis moi-même authentique de ce point de vue-là? C'est-à-dire, pas simplement est-ce que je te trompe en te disant ceci ou est-ce que je suis sincère? C'est absolument indémêlable, justement. C'est les deux à la fois. Et ça, c'est très important. Mais ce qui est caractéristique aussi du stade esthétique, c'est l'ambivalence de soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis moi-même en faisant ça? C'est encore une fois le problème entre l'immédiateté du désir et la réflexion qui l'accompagne sans arrêt. C'est-à-dire, qui n'a jamais fait ça, honnêtement? Qui n'a jamais fait ça? À chaque fois qu'il a été amoureux, qui ne s'est jamais regardé en étant amoureux? Ou qui n'a jamais mêlé, en réalité, à l'amour une stratégie amoureuse?
La séduction.
Bien, la séduction, ce qu'on appelle évidemment, la séduction. Qui ne l'a jamais fait. Et en réalité, c'est ça que veut chercher à voir Kierkegaard, parce que ce qui l'intéresse, c'est un premier stade de l'existence. C'est-à-dire, précisément, ce qui revient à un premier stade de l'amour lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est à ce niveau-là? C'est quoi la consistance de la subjectivité? Qu'est-ce que c'est que cette subjectivité à ce moment-là? Est-ce que c'est une subjectivité qui est consistante en elle-même? Ou il se mêle du faux? Est-ce qu'on est soi-même? Est-ce qu'on coïncide avec soi-même ou pas? Et en réalité, c'est ça qui développe ce journal aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être vraiment et qu'exister vraiment? Si vous reprenez les trois prétendus stades de l'existence chez Kierkegaard, esthétique, éthique, religieux, bien sûr, vous avez trois stades de l'amour. Parce que c'est ça, en réalité, et notamment dans l'alternative, ou bien dans lequel figure ce texte, c'est ça, c'est l'amour, disons, éros, séduction, désir, et puis le mariage. Hein, c'est le stade éthique. Bon, mais comme dans l'extrait que vous avez lu, comme on le voit, il y a aussi un grand danger du passage de l'amour-séduction à l'amour-mariage. On peut rater ce passage, on peut être un mauvais mari, au sens d'être un mari maladroit, c'est-à-dire qui est incapable de sublimer cet amour-séduction. Bon. Autrement dit, il y a une vertu de la séduction, il y a une vertu de Johannes qui dit « mais moi je sais ce que c'est que l'amour, attendez, moi je ne vais pas me marier tout de suite, d'ailleurs je ne vais me marier jamais, parce que je sais trop quelle est la difficulté d'être un mari. Hein. » Et parce que je sais ce que c'est que l'amour. Donc il y a une vraie connaissance de l'amour dans le stade esthétique. Mais cette vraie connaissance de l'amour, elle correspond aussi à un vrai stade de l'existence subjective elle-même.
Qui est l'éparpillement dans la multiplicité des désirs.
Voilà, qui est éparpillement dans la multiplicité des désirs, qui est surtout cette espèce de, qui caractérise la mélancolie romantique, qui est cette espèce d'un capacité à être dans le réel, qui est ce rapport, encore une fois, esthétique au réel, qui est la fascination des possibles. C'est ça l'intéressant.
Préférer le possible au réel.
Bien sûr, c'est ça l'intéressant. Et c'est pour ça que ce qui est extrêmement décevant dans la séduction, c'est la possession. Parce que là, vous rentrez vraiment en contact avec le réel. Il y a un moment donné où toute la réflexion, c'est-à-dire tous les efforts de l'esprit, se résume à un acte réel. Mmh. Vous êtes dans le réel. Et là, vous ne jouissez que du réel. Mais ce qui est fabuleux, c'est de jouir du possible, en tout cas au stade esthétique, c'est de jouir du possible. Et le possible est lui-même l'objet d'une jouissance illimitée. Et c'est ça qui séduit le séducteur.
Et alors pourquoi y renoncer dans une perspective kierkegaardienne? Pourquoi renoncer à ce stade esthétique s'il est fait de jouissance et de volupté et d'amour de soi et d'accouchement de soi par soi?
Ben justement parce que c'est une fausse, c'est une illusion. L'idée c'est...
Ouais, il jouit vraiment dans le texte sur Johannes.
Ah non, je ne dis pas que la jouissance est une illusion, mais le fait d'accoucher de soi... ou de faire accoucher de soi l'autre est une, encore une fois, un mime esthétique du véritable accouchement. C'est-à-dire que, précisément, ce qui caractérise le séducteur Johannes, tout au terme du stade esthétique, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas franchir. Il y a une limite qui est la limite du réel, justement. Il est totalement irréel. Et à dire vrai, comme on va s'en apercevoir assez rapidement, c'est une figure du désespoir. C'est une figure de ce que Kierkegaard appelle le désespoir, c'est-à-dire l'impossibilité d'être soi réellement, c'est-à-dire l'impossibilité d'être existant. Le stade esthétique se referme sur un personnage qui se livre lui-même et qui se livre lui-même comme une espèce de fantasmagorie poétique. Il est lui-même un personnage poétique et il s'est transformé en personnage poétique. Il s'est littéralement déréalisé. Il s'est déréalisé. Et tout ce qu'il déteste, c'est d'être réel, justement, parce que le réel, c'est la limitation du possible, c'est le sacrifice des possibles, c'est l'engagement dans l'existence, et c'est tout ce qu'il déteste. C'est ce qui s'appelle le mariage pour Kierkegaard, bon, à tort ou à raison, peu importe. Mais c'est bien ce qu'il veut montrer, ce que veut montrer Kierkegaard, là, vraiment stratégiquement, c'est le caractère désespéré, à la fois extrêmement jouisseur, mais le caractère parfaitement désespéré. Le stade esthétique, c'est un stade du désespoir d'un bout à l'autre.
Mais c'est ce qu'il y a de glaçant quand on lit ce texte, c'est qu'on se rend compte que la multiplicité des désirs, le fait de tout trouver intéressant, cette curiosité dont on se targue bien souvent, mais moi je trouve tout intéressant et tout m'intéresse, toutes les femmes ou tous les hommes m'intéressent, en fait ne sont que l'expression de ce désespoir profond. C'est qu'en fait, c'est bien pour combler, masquer un ennui. C'est quasiment pascalien pour le coup. Vous disiez en début d'émission que c'était pas comme un simple divertissement. Mais finalement, c'est Là, on trouve un point commun quand même entre l'esthéticien et le divertissement tel que Pascal le pense.
Bien sûr, sauf que la pensée de la mort n'entre pas en ligne de compte ici, mais il faut là, pour le coup, vraiment le replacer dans le contexte d'un dialogue avec Hegel et d'un dialogue avec les premiers romantiques allemands. La cible, c'est le romantisme. Hein. C'est vraiment tout le stade esthétique vise ou aboutit à produire une espèce de portrait de l'âme romantique. Tel que Solg ou Tieck, par exemple, ou Schlegel les définissent ou les valorisent. Si vous regardez le début de l'alternative, le début de ou bien s'ouvre par une série d'aphorismes qui sont typiques dans la veine romantique, ne serait-ce que par la forme de l'aphorisme, mais qui dressent le portrait, finalement, de quelqu'un parfaitement désabusé, blasé. C'est le mal du siècle. Et le mal du siècle, le présentateur, l'introducteur du journal en parle. Hein. Et c'est vraiment, mutatis mutandis, c'est ce dont parle Musset. Mais ce mal du siècle, là en l'occurrence, consiste, ou cette belle âme fatiguée de tout, consiste à justement être dans l'intéressant, dans le possible, et finalement dans un ennui épouvantable. La recherche de l'intéressant est une espèce de recherche désespérée, pathétique du réel qui vous échappe, parce que tout simplement, vous n'en voulez pas du réel.
Alors c'est quoi le contraire de l'intéressant ?
Alors le contraire de l'intéressant, mais ça c'est les stades suivants.
Voilà, essayons d'y aller, on a quelques minutes.
Le contraire de l'intéressant, c'est le réel lui-même, c'est-à-dire c'est ce que va découvrir le stade éthique et le stade religieux à un échelon supérieur. Le contraire de l'intéressant, c'est la relation, tout simplement. C'est la relation à Dieu, enfin à Dieu.
Dans le stade ultime.
Dans le stade ultime, mais à l'autre sur le mode éthique, c'est ça. Pas le contraire, mais l'au-delà de l'intéressant. Vous n'avez pas de... Encore une fois, l'intéressant, c'est un mode Dieu, comme vous l'avez dit, un mode de connaissance du réel, c'est-à-dire un mode de rapport au réel. Vous avez des modes de rapport, selon Kierkegaard, vous avez des modes de rapport au réel, et d'abord au réel que vous êtes vous-même, vous avez des modes plus authentiques que ça. Et les modes plus authentiques, c'est le stade éthique et le stade religieux.
Il faut bien garder en tête aussi que Kierkegaard, de même que Pascal, ne condamne pas le divertissement, mais en montre la nécessité vitale pour l'homme, hein, qui ne peut, dont le plus grand malheur est de ne pouvoir rester seul dans une chambre, et bien il a besoin de se divertir pour accepter l'absurdité de l'existence humaine. Kierkegaard, de même, ne condamne pas le stade esthétique. Il montre qu'il fait partie de la constitution de nous-mêmes en tant que sujet.
Absolument.
Et là, c'est anti-hégélien comme geste.
Absolument,
hein, c'est contre la synthèse du jeu.
C'est très important ce que vous venez de dire là, c'est très important et il le signale aussi dès le début, c'est-à-dire il n'y a pas de, dans la description de la séduction de Johannes, il n'y a pas de question, ça peut paraître étrange, il n'y a pas de question de bien ou de mal, précisément parce que c'est un stade qui ignore en réalité, l'alternative entre le bien et le mal, ou qui pratique l'ambivalence permanente. On a parlé de sincérité et de fausseté, mais entre le bien et le mal, ce sont des termes purement relatifs de ce point de vue-là au stade esthétique. Mais en revanche, ce qui est très très important, c'est comme vous le dites à l'instant, c'est la participation de la séduction à la genèse de l'individu. Et c'est ça, en fait, toute l'œuvre de Kierkegaard est un roman d'éducation, c'est-à-dire savoir comment on franchit ce stade, puisque nous avons tous été séducteurs, nous avons tous été simultanément séduits et séducteurs. Nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, pratiqué, j'allais dire, l'effet vaporisant de la réflexion, à un moment donné ou à un autre. Ou alors, c'est parce que nous n'usons pas du tout de réflexion, mais ça me paraît assez difficile. Mais à un moment ou à un autre, nous sommes victimes de la réflexion et nous nous détachons du réel. Mais il faut y retourner. C'est ça le problème.
Plusieurs de ses propos trahissent maintenant qu'elle en a assez de nos fiançailles. Il ne m'échappe pas, mais dans mes explorations de son âme, il m'aide à me fournir des renseignements utiles. Ils sont les bouts de fil qui me serviront dans mes projets à resserrer les mailles autour d'elle. Bientôt, nos fiançailles vont se rompre. C'est elle-même qui dénouera ce lien, afin, si possible, par là de me charmer encore plus, comme les boucles au vent charment plus que les cheveux coiffés. Si la rupture venait de moi, je manquerais le spectacle si séduisant de ce sceau érotique périlleux, critère sûr de sa hardiesse d'âme. C'est pour moi l'essentiel. En outre, pareil événement entraînerait pour moi beaucoup de suites désagréables de la part d'autrui, bien qu'à tort, je serais mal vue. Haï, abhorré.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Il y aurait un journal de la séductrice à écrire, Vincent Delecroix, pour voir si on peut transposer point par point. Ah, pourquoi pas, c'est une idée. Entre deux émissions, grand merci à vous en tout cas d'être venu nous en parler aujourd'hui. De nous avoir donné envie de lire ou relire ce journal du séducteur. Vous m'aviez confié en début d'émission, avant que l'émission commence, qu'en le relisant, vous l'aviez enfin compris, enfin aimé. Ouais. C'est plutôt encourageant. Ça veut dire que même quand on a lu tout Kierkegaard, on peut encore redécouvrir des textes.
Au contraire, c'est en ayant lu tout Kierkegaard qu'on peut vraiment apprécier un certain nombre de ces.
Bon, bah, voyez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Lisez tout Kierkegaard. Enfin, vous pouvez aussi commencer par le journal du séducteur, donc, car désormais, vous êtes en mesure de savoir comment vous en servir. Vincent Delecroix, on pourra lire de vous, alors c'est dans 10 jours, votre nouvel ouvrage « Apocalypse du politique » qui paraîtra chez Desclés de Brouwer, et puis vous viendrez nous en reparler également.
Très volontiers.
Puis je renvoie également à votre essai sur Kierkegaard, Singulière philosophie, qu'on trouve aux éditions du Félin. Un grand merci à Ariane Mintz qui a préparé cette émission, ainsi qu'au reste de l'équipe des Nouveaux Chemins, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Olivier Bétard, à la réalisation cette semaine, Antoine Ravon et Géraldine Mosna-Savoie qui vient de s'installer en studio, qui vient vous proposer ces 2 minutes papillon comme tous les jours. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Et comme tous les jours donc, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître et aujourd'hui...
C'est un éloge de l'abandon ou le sens de la vie, c'est de Vincenzo Sorrentino et c'est paru aux éditions du Pommier.
Im Osten, wirklich super im Osten, komische Leute, sie schreien, ist mir egal, diese ganzen Gedanken, ich möchte eigentlich gar nicht mehr denken. Ich gehe. Warum eigentlich?
Nein!
Les ailes du désir, le film de Wim Wenders sorti à la fin des années 80, raconte l'histoire d'un ange qui choisit de s'incarner dans une ville qui a connu les horreurs du nazisme pour éprouver la beauté de la vie terrestre et s'unir avec une femme. Il choisit, autrement dit, d'abandonner sa condition d'immortel et son idéal ascétique. Il choisit de s'abandonner. Et dans son éloge de l'abandon, le philosophe Vincenzo Sorrentino ouvre justement son livre avec cet exemple. Excellent exemple qui nous oblige à déplier ce problème de l'abandon. Et avec cette question d'abord, pour s'abandonner, faut-il nécessairement mourir, comme cet ange qui choisit de devenir mortel? L'abandon implique-t-il du moins de se laisser aller, de tout laisser aller, de renoncer à toute forme de volonté, de maîtrise, de prise sur les choses, le corps et les événements de la vie? Il y a en fait quelque chose de complètement paradoxal à choisir de s'abandonner, car comment, par un acte de la volonté, peut-on décider d'y renoncer? Eh bien, pour Vincenzo Sorrentino, tout réside précisément dans cette définition de l'abandon. Et l'abandon, pour lui, est bien différent de l'oubli, de la désolation qu'Hannah Arendt décrivait comme la perte de tout repère, ou encore bien différent de l'absence de sens. Alors au final, qu'est-ce qu'on abandonne dans l'abandon ? Eh bien, la grande idée de cet essai, c'est de faire une distinction entre le sens de la vie et la signification que l'on assigne à un projet de vie. Imaginez que vous marchez dans le noir, vous vous abandonnez à la situation, vous avancez sans connaissance, vous avancez vers un point indéfini, mais vous avancez vers un point malgré tout, grâce à vos sens, par vous-même. Et là est l'abandon, là où le chemin compte plus que le but, là où le sens compte plus que la signification et persiste par lui-même.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'abandon de Cordélia, justement par elle-même, en référence au texte que nous venons d'évoquer, Géraldine. Alors dites-nous le titre de ce livre.
Éloge de l'abandon, ou le sens de la vie, et c'est donc de Vincenzo Sorrentino. Et c'est aux éditions du Pommier.
Merci à vous Géraldine, merci à vous Vincent Delecroix. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au tourment de la séduction. Demain, ce sera de Baudrillard que nous parlerons, qui a écrit un ouvrage intitulé « De la séduction ». Et c'est le professeur de philosophie à l'université de Lyon 3, Thierry Hoquet, qui viendra vous en parler. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe de Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et attendons vos remarques et commentaires.